C'est un livre essentiel pour comprendre le monde où nous sommes et où nous avons choisi de vivre.
L'expression de plaisir du texte est sinon ambiguë, disons incertaine à bien des égards.
Et vous croyez à l'écriture en tout cas maintenant?
Bien entendu.
Monsieur Zola est un de ces êtres dont on pourrait dire qu'il serait meilleur qu'il ne fût pas né.
Et je suis en train d'essayer de faire un livre, mais je ne suis pas du tout sûr de réussir à le terminer.
C'est notre petit secret.
Secret livré, Radio Campus, Paris. Bonjour à tous et bonjour à toutes vous qui nous rejoignez ou qui nous retrouvez après un long mois d'attente pour ce troisième épisode de Secret livré, une émission littéraire proposée par Radio Campus Paris, mais ça, vous le saviez, puisque vous nous écoutez au 93.9 FM. Je m'appelle Claire, je suis l'hôte de cette émission et je vous parle un dimanche par mois d'une œuvre littéraire plus ou moins récente, plus ou moins de chez nous, en compagnie d'un ou une invitée qui nous raconte sa passion pour l'œuvre. Secret livré, c'est l'occasion de revenir sur le contexte de l'œuvre, la société qui l'a enfantée, qui l'a nourrie ou, au contraire, contre laquelle elle s'est érigée en pourfendeuse des traditions, sonneuse d'alarme, que sais-je. C'est aussi l'occasion de discuter esthétique. Qu'est-ce qui fait au fond la beauté d'un livre ? Que dire de la langue ? Que dire des personnages ? Enfin, que disent-ils eux ? Bref, vous l'aurez compris, pourquoi ce livre ? Pourquoi pas un autre ? En ce dimanche 15 décembre, je suis en agréable compagnie puisque j'ai ici en studio mademoiselle Julie Coblance, tout droit venue des bancs de Sciences Po Paris, avant ça de ceux de l'École Normale Supérieure de Lyon, où elle a mené tout son travail de recherche sur un auteur, dont on va taire le nom pour l'instant, afin de garder encore un peu de suspense. Elle est mon invitée aujourd'hui en tant que spécialiste passionnée. Bonjour Julie, comment ça va ?
Bonjour Claire, je suis très contente d'être ici.
Formidable, on est très contente que tu sois là ici. Alors, donc, entrons dans le vif du sujet, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Celles et ceux qui ont lu cette œuvre la reconnaîtront d'emblée et auront sans doute bien du mal à réprimer un frisson d'horreur, car cette histoire a tout des pires cauchemars. La voici, un général de renommée venu du Maghreb est engagé dans l'armée vénitienne, épouse en secret la fille d'un sénateur, puis est promptement envoyé en mission militaire à Chypre afin de défendre l'île contre la flotte ottomane. La guerre écartée, le drame ne fait pourtant que commencer puisque, trahi par celui qu'il pensait être son plus fidèle soldat et ami, plongé dans une folie jalouse et vengeresse par un jeu de mensonges et de miroirs, notre bon général tue sa jeune épouse, innocente, perd son statut, découvre le poteau rose et se donne la mort.
Yet she must die, else she'll betray more men.
Alors jouons ensemble à une sorte de bingo radiophonique. Je vous laisse quelques secondes pour trouver le nom de cette pièce, écrite par Shakespeare donc, et jouée pour la première fois sur scène en 1604. Si vous étiez plusieurs et que l'un d'entre vous a trouvé, vous pouvez lui donner un chocolat. Si vous aviez trouvé tout seul, mangez le chocolat et félicitez-vous, il s'agit bien d'Othello ou Le Mort de Venise. Cette pièce fait partie des tragédies shakespeariennes au même titre que Roméo et Juliette, écrite elle une dizaine d'années auparavant. À la fin, une double mort également, mais pas de double suicide, ça change un peu. On est donc finalement pas très loin de la fin terrible que connaissent les Bovary, objet du dernier épisode de Secret livré. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le recommande. En revanche, on est assez loin de Yonville-l'Abbaye, ville de résidence un peu plouque de Charles et Emma. On est en Angleterre, l'Angleterre de la fin du XVIe siècle, et il règne, sur les planches comme à la ville, un certain flottement. Mal du siècle ou angoisse populaire, vous choisissez, mais en gros, on n'est plus trop sûr de rien. Vous qui nous écoutez depuis trois épisodes déjà, vous le savez, je commence toujours par un petit panorama historique et social. Pas pour isoler l'histoire de l'œuvre, non, mais pour mieux comprendre de quoi elle se nourrit. Alors quand Shakespeare écrit Othello, il a à l'esprit les questionnements de son temps. Les angoisses de l'Angleterre sont aussi les siennes et deviennent sous sa plume celles de ses personnages. On peut d'abord parler de l'époque élisabéthaine comme d'un temps de découverte et de redécouverte. D'un côté, le monde s'agrandit, les perspectives s'ouvrent. L'Europe découvre l'existence de l'Amérique, pas moins, et c'est tout un système de croyances qui se met en branle. Le prix des certitudes augmente. Si le tracé des cartes a changé, on ne peut pas écarter la possibilité que tout change.
Tu entends ? C'est le vent du changement.
Et comme le changement n'a jamais fait bon ménage avec la tranquillité des esprits, on peut comprendre que les Anglais, au XVIe et au XVIIe siècle, soient inquiets.
I'm so worried about what's happening today. In the Middle East, you know.
Shakespeare fait état de cette nervosité dans plusieurs de ses pièces d'ailleurs, comme La Tempête, qui raconte le naufrage de ses personnages sur une île menaçante et magique, ou encore le conte d'hiver où une autre île devient le décor d'une jalousie meurtrière et d'un exil déchirant. Et ce n'est pas seulement le paysage géographique qui change, mais aussi celui des âmes. Je m'explique. En 25 ans, entre le schisme d'Henri VIII en 1534, qui marque le début de la réforme protestante en Angleterre, et la solidification de l'église anglicane par Élisabeth Ier en 1559, le pays n'a de cesse de faire des allers-retours entre catholicisme et protestantisme, ce qui a pour conséquence, bien entendu, de perturber la vie de tout le monde au final. Vous vous rappelez sans doute de vos cours d'histoire de lycée et de ce brave Henri VIII qui, mécontent de son union avec Catherine d'Aragon, qui ne lui a pas donné d'héritier, décide de divorcer pour épouser Anne Boleyn, en espérant que celle-ci soit un peu plus féconde que la dernière. À cette époque, pour divorcer, un commun accord ne suffit pas, cela dit, il faut celui d'un tiers, mais pas n'importe lequel. Le pape lui-même. Clément VII, qui occupe alors ce titre, laisse traîner l'affaire à dessein, puisque celle-ci le met notamment en porte-à-faux avec le royaume espagnol, dirigé à l'époque par l'empereur Charles Quint, neveu de Catherine d'Aragon, l'épouse d'Henri VIII. Vous suivez, c'est un peu compliqué. L'affaire traîne, et cette lenteur n'est pas du goût d'Henri VIII, qui décide de promulguer en 1534 l'acte de suprématie, qui désigne le roi d'Angleterre, lui-même, comme, je cite, « chef unique et suprême de l'Église d'Angleterre ».
Quand je serai roi, je supprimerai la tradition.
C'est la rupture avec Rome, avec le Vatican, le pape et une longue tradition religieuse en Angleterre. Alors cet acte n'a pas seulement vocation à permettre à Henri de divorcer, on remplace également les bibles en latin par des bibles en anglais, volonté affichée de nationaliser la foi, et le Parlement passe le Treasons Act, l'acte sur les trahisons, qui jure de persécuter toutes ceux et toutes celles qui refusent de prêter serment au roi comme nouveau chef de leur culte.
Je vous aurais suivi, mon frère. Mon capitaine.
Alors cet acte est abrogé 20 ans plus tard par Marie Tudor en 1554, qui elle oriente son pays vers un catholicisme réactionnaire, visant à réinstaurer des relations cordiales avec le Vatican, ce qui a pour effet d'instaurer des relations bien moins cordiales avec les protestants anglais, qui jusque-là bénéficiaient d'un tout nouveau traitement de faveur plutôt confortable. Retour à la case départ donc pour beaucoup de gens, rebelote pour les persécutions, un effet yo-yo des moins appréciés par les sujets de la couronne. Alors je passe rapidement sur ces allers-retours maintenant. Ce que j'essaie de vous montrer par là, c'est que toute personne croyante se trouve à un moment ou à un autre forcée de renier sa foi afin d'échapper à la persécution. Cela marque les esprits bien sûr et cela a son importance dans la pièce de Shakespeare qui fait de l'hypocrisie un de ses sujets, voire un de ses personnages. Je pense bien sûr à Iago, celui qui trahit Othello, le menant à sa mort. L'époque est donc tourmentée, on n'est plus bien sûr de ce que l'on croit ni de qui croire. Pour remédier à cela, une bonne solution, se tourner vers le passé. De préférence, un passé idéalisé où il faisait bon vivre. La Renaissance est donc une période de renouveau, mais un renouveau pas aussi nouveau qu'on pourrait le penser. Un nouveau un peu vieux même, un peu poussiéreux, marqué par une très grande influence des classiques. On redécouvre les tragédies grecques, les comédies latines, on lit beaucoup, on s'inspire d'une antiquité qui représente, aux yeux de tous presque, un âge d'or. Quand Shakespeare arrive sur la scène, métaphorique, des dramaturges de l'époque, on connaît et on admire surtout Christopher Marlowe et Ben Jonson, tous deux avides lecteurs des classiques, tous deux grands érudits qui reprennent les pièces et les thèmes antiques. Alors aujourd'hui, si l'on ne faisait que reprendre de façon pratiquement littérale des œuvres déjà parues, ça marcherait sans doute un peu moins. On peut argumenter qu'en art comme en science, rien ne se perd ni ne se crée, mais tout de même, la quête d'originalité est de nos jours bien plus évidente, souvent bien plus affichée du moins. Mais à l'époque, l'originalité comme moteur de création et critère de jugement n'existe tout simplement pas. Le génie créatif apparaît bien plus tard avec le courant romantique, au 19e donc. Cela étant dit, la longévité de l'œuvre shakespearien tient peut-être à cela que lui, sous couvert de thèmes classiques, a su être véritablement original, créatif, subversif souvent. Par exemple, on retrouve dans certaines de ses pièces des références à cet idéal arcadien, sorte de jardin d'Éden où l'on se promène pieds nus en chantant des adagios à ses brebis, qui en retour dansent dans les prés en agitant leurs belles robes blanches et douces. Dans As You Like It, titre français comme il vous plaira, publié ou joué en 1599, les personnages se retrouvent dans la forêt des Ardennes qui illustre ce paradis renouvelé où ne règne plus la loi de l'épée qui tyrannisait la cour. Les paysans sont gentils, les anciens soldats de la couronne mangent ensemble à la même table et s'appellent frérots, et l'on grave sur des troncs d'arbres les poèmes enflammés façon Kate Bush dans son clip Wuthering Heights. Comme dans toutes les pièces de Shakespeare, par contre, évidemment, tout se complique et cet idéal lui-même est remis en question. Des systèmes d'alliance et de hiérarchie se créent malgré tout dans ce paradis informel, et si les rôles s'inversent, ce n'est que pour mieux revenir aux structures rigoureuses de la ville lorsque, à la fin, tout rentre dans l'ordre au sens littéral du terme. Je vous l'avais dit, Shakespeare comprend les tensions de son temps et ne se risque jamais à répondre « tout ira bien ». Si le monde change, qu'il change, on n'y peut rien. Et s'il faut dénoncer les mondanités royales, il est tout aussi crucial pour lui de mettre les hommes en garde contre les mirages des paradis perdus.
Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus.
Entre les classiques et la Renaissance, il y a bien sûr cette fière période qui fleure bon la peste et les déchets dans la rue, les peintures de Jérôme Bosch et les instruments de torture élaborés. Le Moyen-Âge. Une époque bien souvent mal jugée qui a produit quand même son lot de bonnes trouvailles, comme les peintures religieuses où l'enfant Jésus a l'air d'une pomme de terre et les croisades, pour ne citer que deux traits de génie. Alors, un autre trait de génie moyenâgeux, ce sont les « morality plays », avec un bon accent français, les pièces appartenant au genre dit de la moralité, qui mettent en scène des personnages allégoriques. Parmi eux, on trouve le vice, la fierté, ou encore la mort ou la sagesse. Ces pièces ont donc un but moralisateur chrétien. En gros, vous allez voir sur scène des personnages gentils et méchants s'affronter, se tenter, se résister, et à la fin, bien sûr, le bien prévaut. Ces pièces ont inspiré les dramaturges contemporains de Shakespeare, notamment Ben Jonson, qui a été la tête de proue du genre des comédies d'humeur où les personnages sont des types, entièrement régis par un seul trait de caractère. Dans Every Man and His Humour, meilleur accent, joué en 1598, on voit par exemple un petit provincial naïf arrivant à la grande ville qui refuse catégoriquement de mentir. Un personnage un peu plat, donc, selon nos critères d'analyse moderne, mais à l'époque, c'était une façon de figurer sur scène le conflit entre les grandes inclinaisons de l'âme, fussent-elles bonnes ou mauvaises. Ce qui est intéressant, c'est que ces pièces, elles-mêmes dérivées des mystery plays ou miracle plays, qui étaient populaires entre le Xe et le XVe siècle, et représentaient des scènes tirées de la Bible, elles, finalement, créent une rupture, car figurent désormais sur scène les conflits intérieurs de tous les êtres humains, incarné par un seul personnage, Mankind, le genre humain. Au lieu de mettre en scène un tas de scènes bibliques, on commence à représenter donc des allégories, la lutte pour le bien et contre le mal est donc incarnée dans des personnages qui jouent chacun un pôle. Cela peut paraître une distinction superflue, les scènes bibliques sont après tout elles aussi des allégories. Mais la multiplicité autorise la dilution. On apprend plus lentement en allant voir 5 pièces sur 5 petites victoires de saints et de saintes qu'en une seule pièce, ou voir le mal incarné en fait frissonner plus d'un.
I'm the bad guy.
Mais surtout, au-delà du pouvoir théorique d'un démon qui marche et parle, il y a une toute nouvelle nécessité de donner une personnalité à ce mal. Or, voilà la question. Comment le rendre intéressant pour la scène ? A priori, dans l'Angleterre du XVIe siècle, le mal n'est pas le bienvenu. Il court le risque de recevoir des tomates pourries sur la tête. Mais bien au contraire, l'histoire montre que les personnages qui incarnent le vice sont les plus appréciés par le public. Cela s'explique bien sûr, car afin de mieux séduire la vertu, on leur prête une langue riche et séduisante. Afin de corrompre la rectitude des âmes pieuses, on leur fait don d'un sens de l'humour et de la subversion qui fait rire les foules autant qu'il salit les innocents. Sur scène, comme dans la vie, le vice est charismatique.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Alors Julie, tu vas entrer dans cette émission à part entière. Déjà, merci beaucoup d'être ici pour parler de cette pièce, Othello.
Merci pour l'invitation.
Alors, je vais commencer par une chose qui peut paraître tout à fait choquante à notre époque, en tout cas quand on pense aux critères de jugement qu'on a maintenant vis-à-vis de l'art. C'est-à-dire que, donc, à cette époque, le concept d'originalité n'existe finalement pas du tout.
Oui, c'est vrai. Enfin, je ne sais pas si à la Renaissance, le concept d'originalité n'existe pas du tout, mais en tout cas, il n'existe pas tel qu'on le conçoit à présent. En effet, le principe d'originalité naît au XIXe siècle avec la figure du génie romantique. On peut prendre comme exemple Lord Byron ou Victor Hugo comme ces grands créateurs géniaux qui ont un concept du génie artistique irrationnel, radicalement original et créatif. En effet, ce génie artistique n'est plus discipliné par la raison comme il était à l'époque des Lumières. Il est animé par une volonté de briser le carcan des conventions, des codes. Et donc voilà, donc c'est l'invention radicale qui définit cette originalité. Mais à la Renaissance, ce principe n'existe pas du tout. En effet, les droits d'auteur n'existent pas. Donc cela signifie que la plupart des pièces sont publiées sans le consentement des dramaturges, à la sauvette, un peu comme des bootlegs de nos jours, hein, ces copies de concerts distribuées illégalement, avec des reproductions du texte qui sont souvent infidèles et issues souvent de prises de notes des spectateurs. Donc on a assez peu accès au texte original de l'auteur. D'ailleurs, on n'a jamais retrouvé les manuscrits de Shakespeare.
Ce qui doit alimenter la théorie comme quoi il n'existe pas.
Exactement. Théorie qui est fausse. Et donc le théâtre avait très peu de crédit à l'époque, hein, pour des raisons qu'on va sûrement évoquer par la suite. Il était considéré comme un sous-genre littéraire et donc les seuls écrits que Shakespeare a volontairement publiés de son vivant, c'est sa poésie et notamment ses sonnets. Et il faut attendre quelques années après sa mort pour que ses amis acteurs s'unissent pour publier une anthologie de ses pièces avec le premier folio en 1623. Donc pour revenir à ta question sur le thème de l'originalité, pour toutes ces raisons, l'originalité, l'invention radicale avait assez peu d'intérêt à l'époque de Shakespeare et les pièces à l'époque, les pièces élisabéthaines étaient souvent inspirées de pièces antiques ou de faits divers, de pièces d'histoire ou de pièces jouées précédemment portant sur le même thème. Par exemple, les premières pièces de Shakespeare sont des farces, donc des pièces avec une comédie très physique et sont souvent inspirées de l'auteur romain Plotin. Par exemple, la Comédie des Erreurs, une de ses premières pièces, est inspirée d'une pièce de Plotin qui s'intitule Les Ménechmes. Mais Shakespeare complique toujours tout et au lieu de reprendre verbatim le texte de Plotin qui montre les manigances et les intrigues, les quiproquos entre une paire de jumeaux séparés puis retrouvés, Shakespeare décide de compliquer en multipliant les intrigues en mettant deux paires de jumeaux.
Et tu disais donc que le théâtre était considéré finalement comme un sous-genre à l'époque, et pourtant on a bien conscience aujourd'hui, et d'ailleurs si on va visiter le Globe par exemple à Londres, on nous le rappelle constamment que le théâtre était un haut lieu de vie culturelle à l'époque, en Angleterre en tout cas. Par quoi se caractérisait-elle cette vie culturelle si elle n'était pas considérée comme la haute ?
Donc c'était un sous-genre, mais un genre extrêmement populaire, comme tu le dis, c'est vrai. Par exemple parce que les pièces les plus populaires rassemblaient 3000 spectateurs par jour, par pièce, donc ça faisait une grande concentration de monde. Mais en effet, le théâtre était mal famé car c'était un divertissement certes populaire mais méprisé socialement. Et on peut voir ça parce que les théâtres n'avaient pas le droit d'être construits à l'intérieur de la cité. Tous les théâtres étaient construits à l'extérieur de la cité. Parce que notamment, pour des considérations qui maintenant nous semblent complètement révolues, ces spectacles qui réunissaient donc 3000 spectateurs pour les pièces les plus populaires, ça faisait de grosses concentrations humaines et donc ça favorisait la propagation des maladies, notamment de la peste. Et avec la peste noire qui avait touché l'Angleterre quelques siècles avant, ça faisait des gros risques de santé publique. Donc c'était aussi un espace social hein, où toutes les classes se mélangeaient, de la prostituée à l'ambassadeur. Même si les rois et les reines n'allaient pas au théâtre, c'était quand même un genre extrêmement populaire à la cour, car les souverains pouvaient convoquer les troupes pour les faire jouer leur plus grand succès à la cour. C'était aussi un divertissement qui était très abordable. Et comme les théâtres, comme le théâtre du Globe, étaient construits en plein air, les spectateurs pouvaient payer un penny, ce qui était extrêmement peu, pour se tenir debout devant la scène et pouvaient accéder à ce divertissement pour un prix très faible.
J'ai aussi évoqué à l'époque la grande angoisse des découvertes géographiques. La découverte de l'Amérique est l'une d'elles. Et Shakespeare traite de ces nouvelles découvertes. Et dans ses pièces, il y a des thèmes qui préfigurent un peu déjà la colonisation. Par exemple, The Tempest, enfin, la pièce La Tempête. Comment il articule ses pensées là-dedans ?
Oui, c'est vrai. Donc, comme tu l'as dit, l'Amérique est découverte, enfin découverte. Son existence est
par les Européens.
Oui, l'Amérique, son existence est révélée aux Européens en 1492, et ça produit un effet retentissant sur la culture de la Renaissance. Et on en voit les effets dans une des dernières pièces écrites par Shakespeare, donc La Tempête, vers la fin de sa carrière. Où on voit un peu les relations de pouvoir entre un dominant et un dominé, avec un magicien qui prend le contrôle d'une île perdue au milieu de la Méditerranée, probablement. Et en fait, ses habitants natifs sont subjugués par ses pouvoirs magiques. Et on peut y voir une sorte de parallèle avec la colonisation, car le dominé, le colonisé, Caliban, est subjugué, complètement envoûté par le pouvoir de la parole, notamment de Prospero, qui lui apprend le langage. Donc on y voit une sorte d'acculturation qui pourrait se rapprocher de la colonisation.
Et il y a une critique déjà faite d'ores et déjà par Shakespeare de justement cette relation de pouvoir.
Oui, tout à fait. Parce qu'on a, dans cette pièce l'un des plus beaux passages de toute l'œuvre de Shakespeare, où Caliban parle de la beauté un peu sensuelle de cette île qu'il revendique en fait comme sienne, qui lui appartient de droit par sa généalogie, parce que c'était une île qui appartenait avant à sa mère, une sorcière qui a été vaincue par Prospero. Et donc, selon lui, selon Caliban, il n'y a que lui qui est né sur cette île, qui peut en connaître les secrets, les subtilités, et pas Prospero, ce conquérant agressif.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Yeah, I was puzzling you with
Alors, l'époque, c'est une chose, mais comme toujours, ce n'est pas tout. Shakespeare, source de bien des mythes, de passions et de questionnements, façon Illuminati, a-t-il seulement existé, est aussi un homme. Eh bien, Shakespeare, vous le connaissez sans doute déjà, mais le voici. Fils de John Shakespeare, gantier à Stratford-upon-Avon, et trafiquant de laine sur le côté, mais ça, on en parle moins, le dramaturge en devenir se marie assez jeune avec Anne Hathaway, est assez malheureux en noces et décide d'abandonner sa famille pour aller faire du théâtre à Londres et devenir acteur dans la compagnie des Lord Chamberlain's Men. Tout est expliqué dans Shakespeare in Love, et en plus, Joseph Fiennes est très beau, donc n'hésitez pas.
I heard you were a poet.
I was a poet till now.
Grâce à sa plume et à son audace, William accède très vite à son succès et a suffisamment de sous pour faire bâtir en 1499 son propre théâtre sur les berges de la Tamise, le fameux Globe, dont vous pouvez aujourd'hui visiter une réplique presque à l'identique située à 230 mètres de l'original qui, lui, a malheureusement brûlé. Il se fait même prendre sous l'aile du nouveau roi, James I, qui devient mécène du barde de Stratford, dont la troupe se rebaptise donc The King's Men, les hommes du roi donc.
Long live the king.
Ironie du sort quand même, assez drôle à relever, James I prend la couronne d'Angleterre après la mort de la reine Elisabeth Ier, qui n'a laissé aucun héritier au trône. James VI, c'est alors son titre, est appelé au poste et devient roi à la fois de l'Écosse et de l'Angleterre, et d'Irlande au passage, c'est l'union des couronnes et ça se passe en 1603. Au même moment, à deux années près, en 1605, Shakespeare écrit Macbeth, The Scottish Play, sa pièce écossaise, histoire d'un tyran écossais usurpateur de la couronne. Ça sonne un peu familier comme histoire, et pourtant Macbeth ne subit pas la censure. Le pire que l'on inflige à sa pièce, c'est de dire que le titre emporte malheur. Prononcer Macbeth au théâtre, c'est l'équivalent d'emmener un lapin en mer. Et encore en moins mignon, aucune raison donc de tenter le diable. Cette anecdote n'a en fait rien d'anecdotique car elle laisse entrevoir l'immense maîtrise de la langue dont Shakespeare peut faire preuve pendant toute sa carrière. À l'époque, de nombreux dramaturges contemporains plaisent au public grâce à des références culturelles précises. Alors cela parle au public bien sûr, mais cela ne parle que à un public, celui de l'époque. La longévité d'Othello, elle, ne provient pas du réalisme de la ville de Venise, ni des coutumes, ni des blagues sur Chypre. Alors bien sûr, Shakespeare écrit avec son temps, mais il parvient en fait toujours à offrir à son propos une permanence qui surprend encore aujourd'hui. Autrement dit, c'est ce que veulent dire tous les critiques qui s'exclament « Shakespeare, c'est encore tout à fait d'actualité ». Parmi les thèmes qui étaient d'actualité donc à l'époque, et pour n'en citer que quelques-uns, on trouve dans les pièces de Shakespeare l'angoisse de la reine infertile, Elisabeth Ier donc, qui ne laisse pas d'héritier à la couronne. Mais pire encore, et toujours dans la même veine des enfants, on a peur des bâtards. Beaucoup d'angoisses sont en fait directement liées à la descendance, une autre façon de nommer l'avenir quand l'avenir est inconnu et imprévisible.
Hello, father.
You are no son of mine.
Rappelez-vous, on est à une époque où le présent est anxiogène, où l'on se raccroche au passé dans l'espoir d'apaiser ses cauchemars. Alors on mise sur un futur connu, une lignée digne de ce nom, c'est-à-dire de son propre nom. Vous suivez ? Si une femme est adultère, c'est son époux qu'elle sabote, bien sûr, et avec lui toute la société anglaise, le monde même. Dans Othello, cette peur est incarnée dans l'union de Othello et de Desdémone, la fille du sénateur Brabantio. Othello est un Maure, M-A-U-R-E, prince originaire du Maghreb, noir donc, en tout cas dans la plupart des lectures de la pièce. Seul soldat noir d'ailleurs dans une société blanche qui peut difficilement admettre que le mariage des deux amants soit d'amour et autre chose qu'une perversion de l'innocente Desdémone par un étranger sauvage. Pendant toute la pièce, Iago emploie des insultes assez créatives d'ailleurs pour qualifier Othello, allant de cheval de barbarie à vieux bélier noir, et exprime l'opinion populaire à l'époque selon laquelle la descendance des époux ne sera rien d'autre que le mélange monstrueux de deux origines faisant horreur aux hommes et à la nature pareille. Enfin, et une des angoisses qui nous intéresse particulièrement dans cette pièce, c'est cette hypocrisie que j'ai mentionnée en première partie. En gros, le fossé qui existe entre apparence et réalité, entre intérieur et extérieur.
La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains.
Il faut d'abord noter que dans la société anglaise de l'époque, l'homme n'a de valeur ni d'identité que s'il occupe un rôle dans la hiérarchie globale du monde. Il est son emploi, il est son rang. Lorsque l'on brise le lien qui nous rattache à la société, on n'est personne. Parallèlement, et c'est important, à l'époque de Shakespeare, les idées de Machiavel, théorisées dans Le Prince, publié en 1532, ont le vent en poupe. Aujourd'hui, il n'en reste malheureusement que la version concentrée à l'extrême, selon laquelle les méchants ont tout le pouvoir en étant très méchants. Dans le langage courant, dire d'une personne qu'elle est machiavélique, c'est rarement signe qu'on est ami. À l'origine, cependant, l'œuvre de Machiavel est plus nuancée que cela. Il s'attache simplement à dire qu'en séparant l'éthique de la politique, il est plus aisé de prendre le pouvoir et de le garder. Je résume bien sûr, et ce que je qualifie de simple ne l'est en fait pas à l'époque. Cela implique cependant de ne pas se préoccuper de l'éthique autant que la morale chrétienne le voudrait. Et la morale chrétienne le voudrait beaucoup, et la morale chrétienne est très importante. On vit dans un monde régi par « the great chain of being », l'échelle de la nature en français, prescrite par Dieu, qui organise en gros tous les aspects de la vie sur Terre et range chacun dans sa case. S'en éloigner, c'est mourir un peu. Deux pôles pratiquement opposés donc sont en dialogue. D'un côté, la rectitude de la morale religieuse qui impose à tout le monde de suivre un ordre préétabli, et de l'autre, cette sorte de feu personnel qui vous pousse à dépasser cet ordre. Être quelqu'un reviendrait-il donc finalement à devoir mentir ? La langue cesse de n'être que l'instrument de prêche religieux, responsable de l'envoi des âmes au paradis, et devient objet de mille et une méfiances. Comment savoir ce qui est vrai ? Dans Shakespeare, plus que chez les autres dramaturges, la langue est d'ailleurs si bien maniée et si pleine de double sens qu'il est d'un côté impossible de le soumettre à la censure, mais parfois tout aussi difficile de savoir ce qu'il veut dire. À l'Antiquité, on avait une vision optimiste du langage. Le rhéteur, c'était celui qui avait pacifié les hommes, qui avait civilisé les esprits, et fait de l'agora ou du forum cet espace d'échange et de conversation propre au progrès. À l'époque de Shakespeare, ce bel idéal est en perte de vitesse. Et si les belles paroles sortaient, au fond, des bouches les plus perverses. Et Iago en est le plus fier exemple, disant lui-même, je cite, « Je ne suis pas ce que je suis ».
Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi.
Paroles, paroles, paroles.
Je t'en prie.
Paroles, paroles, paroles.
Cet épisode s'intitule « Othello et la manipulation ». Il est donc tout naturel que je m'attarde sur ce personnage en particulier. Je vous l'annonçais en première partie, les personnages viciés sont les plus séduisants dans les pièces de Shakespeare, comme ils l'étaient déjà dans les pièces du Moyen-Âge. Rien n'y fait, le mal plaît. Plusieurs facteurs expliquent ce succès. D'abord, son maniement de la langue. Shakespeare étant lui-même un sacré écrivain, ses personnages s'illustrent souvent par leur excellent sens de la rhétorique. En cela, Iago ne diffère finalement pourtant pas d'autres personnages, pas même d'Othello, qui possède, lui, l'une des proses les plus poétiques de toute l'œuvre de Shakespeare. Ce n'est pas non plus propre aux tragédies, les comédies shakespeariennes regorgent de personnages qui parlent très très bien. Et pas seulement des hommes non plus, on peut penser par exemple à Rosalind dans « Comme il vous plaira », vous vous souvenez, c'est la pièce dans la forêt, qui manipule, elle, tant son petit monde qu'elle parvient à séduire sa target amoureuse tout en lui faisant croire qu'elle est un homme, etc., etc. Mais Iago se distingue par ceci au moins, que sa rhétorique est adaptable. Othello séduit Desdémone en parlant bien, certes, mais en parlant surtout de guerre et de ses conquêtes victorieuses. Rien que de très classique, finalement. Et si elle est séduite, on comprend que le public le soit un peu moins. Iago, lui, possède une langue fondamentalement protéiforme, capable de se modeler sur n'importe quel objet de son désir. Un atout, vous le comprenez, hautement pratique pour tout manipulateur désireux de faire le mal. Ce qui m'amène à évoquer les motivations de Iago. Faire le mal, d'accord, encore une fois, rien de bien neuf. Il n'a pas été le premier, il ne sera pas le dernier. Rien qu'au sein de l'œuvre de Shakespeare, on compte d'innombrables malfaiteurs. Don John, demi-frère bâtard de Don Pedro, conspire par exemple à la chute de ce dernier. Claudius, dans Hamlet, assassine son propre frère, le père du héros éponyme, pour prendre le trône. Mais même si le crime est particulièrement inventif, puisqu'il verse du poison dans l'oreille du roi, ses motivations sont nettes, on ne peut plus nettes d'ailleurs. En clair, à chaque crime, une raison, un objectif. À chaque fois, non, pas exactement, un personnage irréductible, mais pas gaulois, décide de faire le mal sans jamais expliquer pourquoi. Ce n'est pas tout à fait exact, il s'explique, mais voilà le problème, il ne convainc jamais personne. Cassio, un des officiers dont Iago sabote la réputation et qu'il tente d'assassiner, a été promu officier par Othello. Bon, premier motif du crime. Mais les mobiles sont toujours des obsessions. Or, cette promotion n'est mentionnée qu'une fois, en passant. Pas très probant donc pour expliquer un meurtre. Une autre possibilité est qu'Othello a couché avec Emilia, épouse de Iago. Mais là non plus, pas de répétition et pas de véritable preuve, rien. Emilia elle-même est finalement manipulée et aide, sans le savoir, au crime de son époux. Cela écarte donc la théorie de l'amour fou qui justifierait de punir un amant. Car si Iago aimait Emilia, pas sûr qu'il en fasse une complice de meurtre. Enfin, une autre raison avancée est le racisme, pur et simple. Mais Iago est au service d'Othello depuis des années, admire bien des facettes de son général, et dit même de lui qu'il est de nature, je cite, « franche et ouverte », ce qui est un compliment. Il n'a d'ailleurs recours aux injures xénophobes que pour convaincre les autres de l'assister dans sa quête destructrice. Et l'on touche maintenant à une corde sensible chez Iago. À lire la pièce, ou à la voir, il semble que ce personnage n'ait d'existence qu'en dehors de lui-même. Bien sûr, il a une histoire, il a une voix, il a une chair et un passé, mais à l'instar des allégories qui foulaient les planches de théâtre médiévaux, Iago est un vice, ni plus ni moins. On peut même dire qu'il est le vice. Dans la présentation des personnages, et ça c'est intéressant, au début du texte de la pièce, on peut lire par exemple Brabantio, sénateur vénitien, Desdémone, fille de Brabantio, etc. Et à Iago, on lit seulement un scélérat. Mais rappelez-vous donc de ce que je disais sur le rôle des hommes qui faisaient leur valeur tout entière. Iago, s'il est un scélérat, n'a donc pas d'autre rôle que d'être mauvais. Sa vocation tout entière est de faire le mal, et les justifications qu'il en donne ne sont en fait pas des raisons, mais des prétextes. À la fin de la pièce d'ailleurs, quand Othello découvre sa manigance et lui demande des comptes, Iago répond par ces mots, je cite, « Ce que vous savez, vous le savez, désormais, je ne dirai plus un mot. »
Secret livré.
Alors, je parlais donc dans cette partie du rapport à la langue qui change quasiment du tout au tout. On passe d'un respect pour cet outil de paix qui était là pour civiliser les âmes, etc., à une méfiance totale. Et comment ce 360, non, 180, se passe-t-il ?
Oui, alors, comme tu l'as très bien dit, la rhétorique, c'est l'art de la persuasion par le langage, c'est l'art de bien parler, et cet art a été conçu de manière assez ambiguë dès le départ. Donc d'abord, la vision que la Renaissance anglaise a de la rhétorique provient de l'Antiquité, et à la base, comme tu l'as dit, c'était un outil pour promouvoir la civilisation et l'ordre. Dans De l'Invention, le philosophe romain Cicéron construit la figure de l'orateur civilisateur, qui est un homme qui, par l'éloquence et la raison, a mené les hommes hors de leur condition bestiale jusqu'à un état ordonné de civilisation. Donc une société régie par des règles et la raison grâce au pouvoir de la langue. Mais pendant la période élisabéthaine, à la Renaissance, cette vision change totalement. On a là un volte-face car soudain, l'homme qui agit de la pire façon est celui qui parle le mieux. Et cela construit un paradoxe car la rhétorique continue d'être perçue comme un instrument conservateur pour préserver l'ordre établi, mais ça devient aussi un outil subversif pour manipuler, tromper et provoquer une inversion des hiérarchies. Et dans le monde de la Renaissance, qui, comme tu l'as dit, est caractérisé par la perte des absolus, la rhétorique incarne cet écart entre le langage et la réalité, ce qui soulève la question des intentions de l'orateur.
Et c'est aussi une époque où j'ai parlé des grands changements, des grandes mutations de la société avec donc les allers-retours entre les religions. Mm-hmm. L'Angleterre également se sécularise progressivement à cette époque. Et du coup, on assiste forcément à moins de religions évidentes sur scène. Et les pièces deviennent de plus en plus réalistes pour plaire au goût du public qui évolue avec son temps, forcément. Mais c'est pas forcément le cas justement avec Iago qui finalement est comme une allégorie du vice lui aussi.
Oui, c'est tout à fait vrai. Comme tu l'as dit, Iago existe hors de lui-même. C'est une formulation assez intéressante parce que, en fait, Iago, je trouve qu'il représente une forme de relique, d'une relique hybride ressortie du Moyen-Âge. En fait, à la fois, Iago a un emploi, il travaille pour Othello, il a une fonction sociale bien définie, il a une femme, il a une histoire, une antériorité, des relations sociales, mais ce qu'il exprime, est si radicalement diabolique, en fait, qu'il en perd son humanité. Iago semble incarner ce vice dont la seule mission, le seul objectif est de détruire la vertu, de corrompre la vertu par l'humour, la manipulation et l'abus de la rhétorique. Et quand Iago dit qu'il n'est pas ce qu'il est, « I am not what I am », Je trouve qu'il s'oppose en fait à ce que Hamlet dit avant lui. Quand Hamlet hésite entre être ou ne pas être, Iago, lui, décide radicalement de ne pas être. Il choisit le néant plutôt que l'hésitation.
Et Iago donc, a donc bien des facettes fascinantes, et notamment son rôle est fascinant. Il est qualifié de « the ancient » en anglais, ce qui finalement revient à le qualifier de « porte-drapeau ». C'est assez intéressant, puisque finalement, c'est lui qui est censé brandir haut les couleurs d'Othello et qui finalement le mène à sa perte la plus totale.
Oui, je trouve que c'est en effet cette fonction sociale, cet emploi du porte-drapeau, « the ancient », c'est profondément symbolique et très 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 ironique. Parce que le porte-drapeau, c'est celui qui annonce quelque chose, qui communique, qui a pour but d'être transparent. C'est seulement une extension en fait, de la volonté d'Othello. Mais en fait, les couleurs que montre Iago, son discours, sont profondément trompeurs. En fait, tout ce que fait Iago pendant toute la pièce, c'est de tromper. Et c'est cela aussi qui est fascinant, c'est que absolument tout ce qu'il exprime est teinté de vice.
Et le vice, ce qui m'amène à ma dernière question dans cette partie, donc est le produit d'une longue tradition, donc on ne va pas reparler des morality plays, etc. du Moyen-Âge, mais il perdure au-delà de l'époque shakespearienne. Ça continue, la tradition littéraire continue, et est-ce que tu peux penser à d'autres instances dans lesquelles il apparaît ?
Oui, je pense que ce type du vice, qui est donc un type littéraire avant toute chose, se retrouve par la suite, notamment dans Le Paradis perdu, Paradise Lost, de Milton, John Milton, au XVIIe siècle, où en fait, donc Satan, l'adversaire, le personnage de Lucifer, est également le personnage le plus intéressant et qui a fait couler le plus d'encre de toute cette œuvre monumentale qu'est Le Paradis perdu. Donc c'est celui qui fascine le plus, c'est une sorte d'anti-héros biblique. Donc je pense que le mal fascine parce qu'il est protéiforme, comme le dit Hugo par exemple dans la préface de Cromwell. Il y a des millions de manières d'être mauvais, mais seulement une d'être bon. Le chemin de la rectitude est en fait assez ennuyeux comme thème littéraire. Le bien est monolithique et dans un contexte dramatique, ça peut être assez chiant. Et donc après, je pense que l'héritage... de Iago dans la littérature ou dans l'art en général, ça peut aussi se retrouver dans les séries télévisées parce qu'il a influencé beaucoup de personnages, notamment celui de House of Cards, Frank Underwood, où le personnage s'adresse directement au public, un usage de la langue extrêmement trompeur et séduisant à la fois pour le spectateur et pour les autres personnages. Et donc on voit cette continuité dans la représentation du mal comme quelque chose qui est à la fois extrêmement destructeur mais fascinant.
Bah formidable, là-dessus on va faire une toute petite rupture musicale et ensuite on abordera la troisième partie de l'émission.
You look like an angel,
look like an angel.
Walk like an angel,
walk like an angel.
Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. Mm-hmm. You fool me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel,
look like an angel.
Walk like an angel,
walk like an angel.
Talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are, devil in disguise. Mm-hmm. I thought that I was in heaven, sure surprise. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel,
look like an angel.
talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are.
Alors la troisième partie, c'est l'occasion de parler de Iago, personnage qui nous fascine et qu'on adore. Tu disais à la fin de donc, la seconde partie que Iago, et donc toutes les incarnations du vice, après lui et avant lui, étaient cruels non seulement avec les autres personnages, mais aussi avec le public, puisqu'il nous séduit et nous rend complices et témoins de son crime.
Oui, ce qui est assez intéressant avec ce personnage de Iago, et ça allait aussi pour d'autres, ce que certains critiques ont appelé le scélérat rhétoricien, donc le scélérat qui est un expert de la rhétorique, de la parole, c'est qu'en fait, il prend le public à partie de ses machinations et il en fait son complice, presque un criminel. Et donc en fait, le public ne peut qu'adhérer parce qu'il est pris à partie. Il accède à un rôle extrêmement privilégié par rapport aux autres personnages car il est le seul à comprendre l'action dans son intégralité. C'est ce qu'on appelle en théâtre l'ironie dramatique en fait, quand les autres personnages ignorent ce qui se passe autour d'eux.
Et Iago fait une démonstration de son pouvoir de rhétoricien dans une scène très connue de la pièce Othello, dans laquelle il retourne complètement l'esprit du général qui jusque-là était lucide, un homme fiable, respecté dans l'armée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Oui, en fait, la tragédie d'Othello, c'est que c'est cette corruption d'un homme tout à fait respectable, admiré. C'est un grand général dans la ville de Venise qui bénéficie d'une très bonne réputation. C'est lui aussi un personnage, comme tu l'as dit un petit peu avant, qui manie très bien le langage, une langue très poétique, très riche. Et en fait, en une scène, son esprit est complètement corrompu par la rhétorique empoisonnée de Iago.
Qu'est-ce qu'il lui dit, Iago, dans cette scène ?
Alors, dans cette scène, donc c'est la scène, pour être clair, la scène 3 de l'acte 3, qu'on a surnommée la scène de la tentation, donc ce qui est assez évocateur. Hein.
C'est très biblique.
C'est très biblique, oui. Donc, on retrouve encore une fois ce parallèle avec le vice, avec le Satan, l'adversaire, voilà. Et en fait, en une scène, il arrive à planter les graines du doute dans l'esprit d'Othello, en insinuant qu'en fait, sa femme le trompe et a une relation avec son lieutenant Cassio. Donc, pour le manipuler, à chaque fois que Othello demande à Iago de s'expliquer, donc Iago répète à plusieurs reprises que Cassio est honnête, donc honest, et en fait, à chaque fois qu'il répète ce mot honnête, il semble perdre à chaque fois de son sens. À chaque fois qu'il répète que Cassio est honnête, il introduit l'idée qu'il n'est en fait pas honnête du tout. Et donc, c'est ça qui crée une sorte de corruption au fil de cette scène. Et par des répétitions, par des métaphores, c'est en une scène, donc cet homme tout à fait respectable et admirable est rongé par la jalousie, par ce monstre aux yeux verts, comme Iago l'appelle dans cette scène. Et il est plongé dans un état de transe presque bestiale qui est incarné par une crise d'épilepsie et qui montre ce passage tragique vers le meurtre.
Et d'ailleurs, tu parles de la crise d'épilepsie qui est visuellement une représentation du trouble qui s'installe dans l'esprit de Othello. Il y a un fossé qui se creuse entre l'intérieur et l'extérieur des personnages, donc l'angoisse du siècle, l'hypocrisie. Et il y a des personnages qui, par exemple Richard III, il me semble, qui physiquement montrent leur vice.
Oui, tout à fait. Ce qui est assez surprenant avec Richard III, c'est que donc Gloucester, est aussi un exemple d'un scélérat rhétoricien, un expert de la langue, un manipulateur professionnel presque. Et mais contrairement à Iago, lui, son vice, cette corruption morale apparaît physiquement. Donc il est à la fois bossu et boite. Et ce qui est surprenant dans cette scène, c'est que personne ne montre la correspondance entre cette difformité morale et cette difformité physique, ce qui est en fait un lieu commun dans la littérature de la Renaissance, même si de nos jours ça semblerait grossier. Mais à l'époque, cela n'apparaît pas du tout aux yeux des autres personnages, alors que pour le public qui a accès à l'intériorité de Richard, cette corruption est flagrante.
Alors, on va s'éloigner un tout petit peu des personnages en eux-mêmes de Shakespeare, même les méchants, qui sont très intéressants. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu du temps parce que tu nous parlais de cette scène où la corruption de l'esprit d'Othello est extrêmement rapide, et on se demande un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi aussi rapidement. Et il me semble qu'il y a une utilisation du temps, un rapport au temps très spécifique dans les pièces de Shakespeare, où la chronologie seule ne semble pas tenir debout.
Oui, c'est vrai. En fait, toutes ces pièces ont été conçues pour être jouées au théâtre, donc devant, sous les yeux des spectateurs, cette accélération temporelle n'est pas problématique. C'est pas forcément un problème d'avoir en une scène un volte-face comme ça par rapport au personnage. Mais quand on considère l'histoire de la pièce, en fait, l'intrigue a lieu sur quelques jours ou quelques semaines. Et cette durée qui ne correspond pas du tout aux trois ordres classiques définis par Aristote, donc unité de temps, unité de lieu, unité d'action, ne correspond pas à la durée de la pièce, donc deux ou trois heures, qui est, elle, très réduite. Donc on a en fait ce concept de double time, donc double temps, où en fait, même si en théorie l'action a lieu sur quelques jours ou quelques semaines, on a besoin d'avoir cette accélération dramatique pour que la pièce puisse faire sens sur les planches.
Et du coup, ça pose la question des adaptations à l'écran, puisque cette pièce, comme il me semble toutes les pièces de Shakespeare, d'ailleurs, je ne sais même pas, je suppose qu'elles ont toutes été adaptées.
Oui, oui.
Voilà, très bien, sans doute plein de fois. Donc l'adaptation à l'écran, elle nécessite des prises de liberté, forcément, avec cette temporalité, puisqu'on pourrait avoir un film de 3 heures. Mais comment ça se traduit, justement, à l'écran ?
Oui, c'est vrai qu'à l'écran, le paradigme est vraiment différent parce qu'on n'a pas ce besoin de condenser l'action qu'on a sur scène. On peut diviser les scènes de manière à ce qu'elles aient lieu sur le temps long ou alors dans plusieurs lieux différents. Et par exemple, cet aspect un peu graduel, cette évolution de la contamination, de la manipulation qu'on a dans cette scène, la scène de la tentation, elle est montrée par exemple dans l'adaptation de Oliver Parker de 1995 de la pièce, où la scène de la tentation est répartie sur plusieurs jours, sur plusieurs lieux, pour montrer en fait ce côté insidieux de la perversion de Iago, qui fabrique une forme de romance imaginaire entre Desdemone et le lieutenant d'Othello, Cassio, alors que c'est vrai que sur scène, tout cela a lieu en une scène, en quelques pages.
Alors, revenons au personnage, après avoir fait cette petite encart sur le temps, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, la manipulation de Iago. Coleridge, c'était un poète, il me semble, et
critique. Oui, un poète anglais.
Voilà, et critique littéraire, qui a mis un mot sur ce que j'essayais d'expliquer dans la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire ce manque de mobile de Iago, qui finalement semble être méchant juste parce qu'il a envie d'être méchant, qu'il appelle donc « motiveless malignity ». La méchanceté sans raison, et c'est un concept intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Oui, alors Coleridge a mis le doigt sur quelque chose qui a fasciné les critiques, la critique shakespearienne pendant 400 ans. En fait, c'est cette absence de mobile dont tu as parlé. Et en fait, il en a fait une note de bas de page sur sa pièce, et ça montre ce qu'il explique, c'est que la surenchère de mobile correspond à une absence. Là, ici, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, un trop, c'est en fait un rien. Et donc, ce qui fascine chez Iago, c'est pas qu'il n'y a pas de mobile, c'est qu'il y en a trop. Donc, il y a une sorte d'ambiguïté dans cette phrase de motiveless malignity, c'est que c'est pas une absence, c'est vraiment qu'il y a tellement de mobiles qu'on n'arrive pas à en privilégier, à en sélectionner un. Ça peut pas être tout ça à la fois, c'est pas possible. Donc, en fait, tout ça, c'est des prétextes. C'est que des prétextes pour justifier le meurtre, pour justifier, en fait, ce dessein démoniaque qui l'expose, où tuer Othello, ça devient presque une vocation, finalement.
Et cette vocation, évidemment, n'est jamais affichée au grand jour. Hein. Donc, d'où la question de l'hypocrisie, qui est un thème central dans la pièce, et dans beaucoup de pièces, d'ailleurs, de Shakespeare. À l'époque, jusqu'à la Renaissance, en tout cas, on ne pensait pas qu'il y avait un intérieur, en fait, chez les humains. Et en fait, on pensait que l'extérieur, c'était tout, c'était l'identité. D'où le grand choc quand on a appris que, finalement, on pouvait cacher ses raisonnements.
Oui, en fait, à la Renaissance, on a vu apparaître une sorte d'angoisse sur le fait qu'il puisse y avoir un fossé entre l'intérieur et l'extérieur d'une personne. Quand on a commencé à réfléchir au fait qu'un intérieur, donc une intériorité, puisse être cachée, qu'il puisse avoir ce hiatus entre ce que l'on exprime, ce que l'on montre et ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ça a été conçu comme un drame. Parce que à la Renaissance, on pensait que Dieu était partout. Comme tu l'as dit, il y avait cette échelle de la nature, la scala naturae, en latin, hein, où Dieu était perçu comme une sorte de témoin universel qui avait accès à la conscience de tout un chacun. Et donc, c'était censé assurer la préservation de la vertu et le fait que, de l'honnêteté, en fait, l'impossibilité de mentir. Donc, en fait, implicitement, le fait de mentir, ça signifiait défier l'existence même de Dieu. Parce que ça voulait dire que... Parce que mentir sous la surveillance de Dieu, c'était... Ça signifie s'exposer à l'enfer, en fait. C'était un péché incroyable. Donc, en fait, ça amène l'idée de l'athéisme. Donc ça, c'était impensable à la Renaissance, qui est une société extrêmement hiérarchisée et organisée par la religion. Donc, en fait, le fait de mentir, c'est assumer que le seul témoin à ses actions, ce sont les hommes, et que la seule personne qui a accès à ses propres pensées, c'est nous-mêmes.
Très inquiétant, en effet.
Et oui.
Eh bien, merci beaucoup, Julie, d'être venue répondre aux questions sur le plateau de Secret Livré. Et merci, Pitoum, d'avoir réalisé l'émission aujourd'hui.
Avec grand plaisir.
Merci à toi.
Et on se retrouve donc le mois prochain pour un nouvel épisode de Secret Livré.